La paix, la grâce et l'amour du Seigneur soient avec nous tous. Je ne cesserai pas de rappeler que le salut est offert gratuitement à tous, car notre seule et meilleure assurance dans la vie comme dans la mort, c'est notre Dieu. Alors, ce matin, le texte qui m'est venu à l'esprit toute la semaine et la semaine dernière, c'est la puissance et l'accomplissement de la parole. Et la lecture du texte se retrouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, les 18 premiers versets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Verset 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Parole du Seigneur. J'ai comme envie de regarder du même coup la naissance et la préparation de Jésus, le Fils de Dieu. Frères et sœurs en Jésus, dans l'évangile de Jean, j'ai remarqué qu'il n'existe aucune généalogie ni aucun récit de la naissance de Jésus, ni de son enfance, de sa tentation, de sa transfiguration, du choix de ses disciples. Même les paraboles de Jésus ne sont pas mentionnées. l'ascension de Jésus, son ordre missionnaire, quand il avait dit à ses disciples, dans Matthieu 28, versets 19 et 20, il avait dit à ses disciples, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a 8 miracles qui sont rapportés. Mais il n'y a pas de description de ces miracles. Dans cette partie de l'évangile de Jean, Jean veut s'adresser aux nouveaux chrétiens. Et il s'adresse en même temps à tous ceux qui recherchent la vérité, en leur prouvant que Jésus est le Fils de Dieu, et que tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle par le moyen de la foi. Le récit que Jean fait de la connaissance, de la naissance de Jésus-Christ est unique. Nous savons que Jean a été toujours près de Jésus. Et nous savons aussi, non seulement que le récit de Jean est unique, mais que Jésus n'est pas venu exister sur terre au moment même de sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Et en regardant le mot « parole », la parole de Dieu, nous pouvons remarquer qu'il y a eu beaucoup de divergences entre les Juifs et les Grecs dans l'utilisation de la parole. Dans l'Ancien Testament, la parole, c'était un agent de la création. Le psaume 33, verset 6, nous dit quelque chose. La parole, c'était la source du message de Dieu à son peuple par les prophètes. Osée en est un. La loi de Dieu, la sainteté de Dieu que nous retrouvons en lisant le psaume 119 au verset 11, nous avons une idée assez claire de ce que c'est que la parole. Mais chez les Grecs, c'était différent. La parole était considérée comme le principe qui gouverne le monde. La pensée présente dans l'esprit. Les Grecs voyaient les choses autrement, alors que dans la pensée hébraïque, c'était une autre expression pour Dieu. Ce qui est clair, c'est que Jean montre qu'il s'agit de Jésus. Depuis le premier verset, et même encore au verset 14, dans ce que nous venons de lire. Jean nous fait savoir que Jésus est venu, c'est un être humain qu'il a connu, qu'il aimait, mais c'est un être qui était Dieu en même temps. Il était le créateur de l'univers, la révélation suprême de Dieu, l'image vivante de la sainteté de Dieu, celui par qui tout subsiste, Colossiens 1, 17. Pour les Juifs, qui ne l'entendaient pas de cette oreille, tout cela était considéré comme un blasphème. Tandis que pour les Grecs, la parole fait homme leur paraissait comme étant inimaginable. Jean comprenait cette parole-là comme étant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'identité de Jésus-Christ est révélée par son enseignement, par ses actes. Tout en étant humain comme nous, il était le Dieu. Il n'a jamais cessé d'être le Dieu éternel qui a toujours existé, qui contient la vie éternelle et qui crée tout. C'est là, je peux dire, le fondement même de la vérité. Parce que la vérité concerne la présence de Jésus. Pour moi, si quelqu'un ne croit pas fondamentalement dans cette vérité, il lui sera absolument difficile d'avoir suffisamment de foi pour pouvoir confier à Jésus sa destinée éternelle. Ainsi donc, l'évangile de Jean, cette portion de la lecture, c'est comme un appui solide à notre foi que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, d'éternité en éternité. Il est là, il a toujours été là. Je n'ai pas le temps de vous lire Jean chapitre 20, versets 30 et 31, mais vous pourrez le consulter. Jean s'adresse aux croyants de partout, aux juifs, non-juifs. Il a toujours été, lui, Jean, un disciple de Jésus, un témoin de la vie de Jésus, et ce qu'il dit est authentique. Ce n'est pas une biographie que Jean nous fait, comme par exemple dans le livre de Luc. Mais Jean nous fait une présentation thématique de la vie de Jésus-Christ. Jésus est tout à fait différent de ses mythes. Tout à fait différent de sa divinité mythologique. Pourquoi? Parce que Jésus leur est supérieur. Il y a encore des gens qui pensent que la vie est trop compliquée pour que Jésus, pour que Dieu la comprenne. Mais c'est injuste. C'est injuste de penser une chose pareille. Il a créé l'univers avec tout ce qui s'y trouve. Il est vivant aujourd'hui. Son amour est plus grand que n'importe quel problème qui pourrait nous confronter. Il a créé l'homme, un être particulièrement intelligent. Parce que dans son image et dans sa ressemblance, l'homme a reçu des dons qui lui permettent d'avancer, d'évoluer et de comprendre finalement que Jésus-Christ est le souverain maître de toutes choses. Ce n'est pas la peine d'aller très loin pour comprendre la puissance de sa divinité. Mon frère, ma sœur, tu n'as qu'à te regarder toi-même. Miroir ou pas miroir, tu n'as qu'à te regarder toi-même. Pour comprendre que Jésus-Christ est le Dieu qui nous a créés. Qui donc pourrait créer un corps aussi parfait? Tout est en équilibre dans ce corps. Tout devient déséquilibre par la force du mal, la force du péché. Mais à la création, quand nous avons été créés par lui, mais c'est la perfection même. Les choses sont à leur place. La bouche, la langue. Regarde-toi et demande-toi à quel autre endroit pourrait-il placer la bouche. Par la force du péché, la bouche et la langue sont devenues des organes difficiles à cerner. Mais les organes sont placés dans leur position essentielle. Le cœur, le cerveau, les poumons, les reins, le foie, la rate, le pancréas et tant d'autres organes, les uns aussi indispensables que les autres. Même cela, même les organes que nous ne pouvons pas voir extérieurement, mais il les a créés. Les glandes que nous avons dans notre corps, les glandes endocrines, qui sont là pour maintenir l'équilibre, la coordination, l'orientation de notre corps. Allez donc faire enlever une de ces glandes et vous allez savoir quelle est la puissance de Jésus-Christ. Nous devons nous considérer, frères et sœurs, comme des êtres uniques, avec beaucoup de valeur. Mais sans lui, sans Jésus, on n'est rien. En essayant de nous écarter de lui, nous nous écartons même de la raison pour laquelle nous avons été créés. Le paradoxe, la lumière brille. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Mais la lumière détruit les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Le mal n'a jamais vaincu et ne pourra jamais vaincre la lumière divine. Jésus a créé la vie qui nous apporte la lumière à l'humanité. C'est à cette lumière que nous nous voyons tels que nous sommes. À cette lumière que nous nous voyons tels que nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes pécheurs. Des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Lorsque nous suivons Jésus, la vraie lumière, nous n'avons pas à marcher à tâtons. Nous n'avons pas à tomber dans le péché. Parce qu'il éclaire notre chemin. Afin que nous puissions voir clair, frères et sœurs. J'entends par là qu'il enlève l'obscurité du péché. Sa lumière brille dans notre vie et il nous dirige pour que nous ne tombions pas dans l'obscurité. Et c'est pour ça que chaque jour, même quand la mémoire veut faire défaut, je n'oublie pas que Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse conduit par sa sûre main. Pas plus que Jean-Baptiste, nous ne sommes pas la source de la lumière de Dieu. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de refléter la lumière de Dieu. Jésus-Christ étant la vraie lumière, il nous permet de nous rapprocher de Dieu et nous enseigne comment avancer sur le chemin. Et pourquoi il a choisi aussi ses disciples? Pour qu'ils soient le reflet, pour qu'ils soient son reflet dans ce monde incrédule. Les non-croyants ne sont pas en mesure de supporter directement la gloire éclatante de sa lumière. Mais nous devons nous présenter aux autres comme étant la lumière qui est capable de les guider vers Christ, la vraie lumière. Christ a créé le monde. Mais ceux qu'il a créés ne l'ont pas reconnu. Cela veut dire que même le peuple choisi par Dieu pour préparer le reste du monde à la venue du Messie l'a rejeté. Ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, Ésaïe 49. Le libérateur à venir qui a apporté la bonne nouvelle, le message du salut au monde, acte 13, 47. Christ a offert le salut à toutes les nations et ses apôtres ont lancé le mouvement missionnaire pour pouvoir permettre la propagation de l'évangile dans le monde. C'est donc un effort qui se poursuit encore aujourd'hui, conformément à l'ordre de Jésus. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers amis, tous ceux qui accueillent, tous ceux-là qui accueillent le Seigneur Jésus dans leur vie, connaissent une naissance spirituelle. Ils connaissent une naissance spirituelle et ils reçoivent la vie nouvelle. Par la foi, cette nouvelle naissance va nous changer intérieurement. Cette nouvelle naissance va nous changer de l'intérieur. Nos attitudes, nos motivations, nos désirs changent. La vie spirituelle va devenir la nôtre, la tienne, la vôtre. Si vous avez déjà pensé à dire à Christ que vous voulez devenir une personne nouvelle, ce serait un nouveau départ dans votre vie. Lorsque le Christ s'est incarné et a habité parmi nous, il est devenu la pensée de Dieu, le maître parfait. Philippiens 2, 5, 11. Il est devenu l'exemple parfait, 1 Pierre 2, 21, le modèle que nous recherchons. Il est devenu le sacrifice parfait, Colossiens 1, 15, 23. Sacrifice parfait pour nos péchés, par sa mort. Le pardon de nos fautes, par sa mort. Jésus est le Fils unique de Dieu. Il jouit d'une relation particulière avec Dieu. Et il est différent des autres croyants. Lorsque Jésus est né, Dieu est devenu homme. Lorsque Jésus est né, Dieu est devenu homme. Il n'était pas en partie homme et en partie Dieu. Non, il était entièrement homme et entièrement Dieu. Colossiens 2, 9. Avant la venue de Jésus, ce n'était pas possible de connaître Dieu que partiellement. Mais avec la venue de Jésus-Christ, on peut connaître pleinement Dieu car il est devenu visible et tangible. Il est à la fois homme et Dieu. Et c'est là qu'il existe une singularité particulière qu'il faut souligner. Dans sa relation avec nous, il y a deux aspects de la nature de Dieu, la loi et la grâce. Moïse avait insisté, lui, sur la loi et la justice. Jésus-Christ a révélé la bonté, l'amour et le pardon de Dieu. Moïse a donné la loi, Jésus est venu pour l'accomplir. Matthieu 5, 17. Ce qui veut dire que la loi et la justice, c'est bon, c'est de bonnes choses. Mais la loi et la grâce, c'est encore plus fort que la loi et la justice. La nature et la volonté de Dieu sont révélées en Jésus-Christ. Ils sont manifestés en Jésus-Christ. Au lieu d'utiliser des tables de pierre, la révélation de Dieu est devenue vivante dans la personne de Jésus. Vous voyez la différence, l'écart, la nouvelle vie, la nouveauté, cette manière spirituelle divine qui nous montre que ce ne sont plus les tables de la loi, mais c'est Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui est devenu vivant pour nous faire connaître la vérité et toute la vérité. La parole de Dieu nous fait comprendre que plus nous progressons dans la connaissance de Christ, plus nous serons capables de comprendre la divinité de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par des prophètes. Vous vous rappelez, par l'intermédiaire de nombreuses personnes qui avaient des messages particuliers à transmettre. Mais personne n'avait vu Dieu. Jésus est à la fois le Fils unique du Père et donc Dieu. L'essence et la nature de Dieu, d'une manière accessible à nous, lui a été révélé. Dieu a pris la forme d'un homme qui a vécu sur la terre. Jésus-Christ, Exode 33, verset 20. Hélas, aujourd'hui, nous sommes capables de le dire puisque nous l'avons connu et reconnu. Nous vivons dans un monde qui s'évertue à piétiner les lois, les ordonnances, les préceptes, les commandements de Dieu, parce que tout simplement, ils n'ont pas encore reconnu l'existence de Dieu. Nous sommes capables de conjuguer, non pas un verbe, mais droit et liberté de la personne, qui bien souvent se confondent avec licence, libertinage ou autre chose. Les théories, aujourd'hui, les théories fusent de toutes parts pour montrer et expliquer différemment l'origine, l'existence de Dieu. Pour montrer et expliquer l'origine de la vie. Enfin, il leur reste encore une chose, entre autres, qu'ils ne sont pas capables d'empêcher, justement, c'est de s'empêcher de mourir. Nous, chrétiens, nous avons pour devoir de sensibiliser l'humanité tout entière à la supériorité de l'Évangile et à l'existence incontournable de Dieu, le souverain maître de toutes choses. Je sais comme moi que vous avez vu au petit écran comment nous nous laissons envoûter et conquérir par l'étalage voluptueux de ces êtres sans retenue, sans répiscence, sans récipiscence. Ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils ne veulent pas croire en Dieu. Bizarrement, quand la météo s'annonce inquiétante, ouragan, tornade, tsunami, tempête et j'en passe, ils se mettent tous à l'abri et se donnent toutes sortes de protections. Voyez-vous la différence? Ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient en la parole de l'homme. Si nous allons jeter un coup d'œil dans l'évangile de Paul aux Galates sans intelligence, les chrétiens s'étaient laissés faire par les arguments de pressaignants entendus, de pressaignants prétendus. Ces prétendus enseignants qui étaient ensorcelés arrivaient à ensorceler aussi les autres. À cette époque-là, il y avait beaucoup de pratiques magiques, Actes 8, 9, 11. Comment? Avec des illusions d'optique. Comment? Avec l'appel à la puissance de Satan pour accomplir des miracles auxquels ils y croyaient sans même y sentir le danger. Aujourd'hui, nous savons, nous, chrétiens, qu'a commencé la vie chrétienne dans la puissance du Saint-Esprit, nous devons compter sur cette même puissance pour pouvoir grandir spirituellement à cause de l'œuvre de l'Esprit Saint qui habite en nous et non pas parce que nous nous sommes donné des règles particulières. Il faut se recentrer sur Christ comme fondement de la foi. Le Saint-Esprit offre une grande puissance en nous pour que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. Il n'y aura pas de perpétuelle exaltation, mais si nous considérons bien les choses dans leur valeur, la loi nous assure deux fonctions. Révéler la nature et la volonté de Dieu et de nous montrer comment vivre. Mais aussi, la loi met en évidence notre péché. Et arrive à nous dévier, en nous faisant comprendre qu'il est impossible de satisfaire Dieu en obéissant à toutes ses lois. La promesse divine que Dieu avait faite, l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, nous montre que le salut n'est possible que par la foi. La loi nous dit comment obéir à Dieu dans un esprit de reconnaissance, mais la foi n'abolit pas la loi. La foi n'abolit pas la loi. C'est-à-dire que plus nous connaissons Dieu, plus nous voyons combien nous sommes pécheurs. Et c'est ce qui nous amène à ne compter que sur Christ pour être sauvés. Romains 1, 17, Hébreux 10, 38. Le Saint-Esprit offre aux croyants une grande puissance pour que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. Il y a même des chrétiens qui veulent plus que cela. Des chrétiens qui vivent d'une façon exaltée, dans une exaltation perpétuelle. Souvent, l'œuvre la plus importante du Saint-Esprit consiste à nous apprendre à persévérer, à continuer de faire ce qui est juste, même quand cela ne paraît pas aussi intéressant et stimulant. Pour nous, qui sommes chrétiens, chaque jour nous donne une nouvelle occasion de vivre pour Christ. Abraham avait cru en Dieu et dans ses promesses. Même si ses promesses étaient devenues pleinement réalité bien des siècles plus tard, avec la croix. Mes chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, visiteurs, amis, étrangers ou inconnus, opposants ou adhérents, j'aimerais poser la question suivante. Y a-t-il de l'espoir pour le monde? C'est là ma question. Y a-t-il de l'espoir pour le monde? Je crois que oui. Même si autour de nous, les pourparlers de paix échouent de nouveau, le taux de chômage inquiète, les tornades font rage. La météo fait des siennes. Même si certaines tendances nous amènent à désespérer, même si nous voulons abolir la guerre, le concept de prospérité est plus qu'une trouvaille politique. Car la Bible nous dit que l'apprivoisement éventuel de la nature est une certitude. Cela signifie, rapidement, en quelques mots, que l'espoir pour le monde ne se trouve pas dans les cerveaux surdoués, mais l'espoir pour le monde se retrouve dans le retour de Jésus-Christ. Le seul à pouvoir résoudre les problèmes qui déroutent l'humanité. Le prophète Ésaïe a dit qu'un jour, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Cette perspective glorieuse sera une réalité, frères et sœurs. Quand Jésus reviendra comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour établir son royaume de paix et de justice. Il nous faut donc attendre. Il nous faut donc persévérer. Il nous faut donc continuer à prier, matin et soir, nuit et jour, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Tite 2, 13. C'est en vertu de cet espoir, frères et sœurs, que je vous laisse l'espoir que nous pouvons être optimistes malgré le pessimisme croissant de notre époque. Que Dieu nous fasse la grâce de continuer à nous efforcer de rester à l'intérieur de sa parole et qu'il puisse nous donner la paix, sa paix, sa sainte paix dans la maison où il nous abrite, en nous demandant d'apprendre à compter nos jours et à appliquer nos cœurs à la sagesse. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse tous. Bon dimanche, bonne semaine à tous.